Eh bien, merci à toute l'équipe d'Accent d'Europe. L'OTAN a-t-elle encore un avenir ? On en parle ce soir dans le débat du jour.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Et oui, car demain s'ouvre à La Haye, aux Pays-Bas, un sommet de l'Alliance, un sommet crucial, dans un contexte évidemment trouble. À l'heure ce soir de la réponse iranienne aux frappes américaines dans le cadre de la guerre entre Israël et Téhéran, on va évidemment l'évoquer dès le début de cette émission. Et donc, alors que les questions de défense constituent un enjeu primordial, eh bien l'OTAN semble plus fragilisée que jamais, l'Alliance défiée par le président américain. D'où notre question, est-ce qu'aujourd'hui l'OTAN peut survivre à Donald Trump, le président américain qui exige un effort inédit de la part des États membres? Quelles sont les intentions de Donald Trump à l'égard de l'OTAN et que doivent faire les Européens face à cela? Eh bien, soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir à mes côtés en studio, Maud Kessar, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférence des universités, directrice du domaine euratlantique à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Face à vous, Olivier Sueur, bonsoir.
Bonsoir.
Chercheur associé auprès de l'Institut d'études de géopolitique appliquée, ancien sous-directeur OTAN, Union européenne et ONU au ministère des Armées. Et notre troisième invité est en ligne avec nous, Jean-Pierre Molny, bonsoir.
Bonsoir.
Directeur adjoint de l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, responsable des études liées aux questions de défense. Alors justement, les questions de défense pour ouvrir cette émission, on va les évoquer en sortant du cadre purement OTAN, puisque ce soir, il y a donc, on y assiste, à la réponse iranienne aux frappes américaines. Ce qu'affirment ce soir les médias d'État iraniens, c'est que les bases américaines au Qatar et en Irak sont touchées par de nombreux missiles iraniens. Maud Kessar, votre réaction, c'est ce qui était attendu d'une certaine manière, que Téhéran frappe les intérêts américains dans la région?
Alors depuis quelques heures, on s'y attendait, puisque donc les Qataris ont fermé leur espace aérien, et on a bien compris que dans cette affaire, le régime iranien va être jusqu'au boutiste, puisqu'il est acculé du fait en fait des derniers développements de ce week-end qui ont vu donc les Américains venir frapper les principaux sites stratégiques nucléaire iranien. Donc on s'attendait à une riposte. Pour l'instant, il faut savoir si, comme en 2020, il s'agira de simples tirs et qui sont finalement une démonstration de force en réponse, ou si ces tirs-là vont être suivis de nouveaux tirs qui pourraient faire des victimes. Et dans ce cas-là, eh bien, on serait dans le cas d'une escalade, puisque les États-Unis rentreraient en guerre, ce qui pourrait finalement ouvrir un véritable nouveau front pour les États-Unis et donc peut-être devoir les amener à devoir ne pas s'engager de la même manière sur d'autres fronts, et notamment le front ukrainien, et donc les éloigner un petit peu des sujets proprement OTAN qui nous occupent ici, nous, de ce côté de l'Atlantique.
Et l'Iran, ça peut être aussi à double tranchant, de répondre de manière musclée. Il y a le risque de l'escalade.
Absolument, c'est le risque de l'escalade, et surtout d'une escalade qui conduirait à une paralysie de l'économie mondiale. Je pense que là, dans la réponse iranienne, on s'attendait aussi, puisque ça a été voté cet après-midi, à une fermeture du détroit d'Hormuz, qui pouvait être une paralysie en fait de l'ensemble des flux, notamment pétroliers et de gaz naturel liquéfié qui passent par ce détroit et qui pouvait handicaper non seulement les Américains, mais aussi de nombreux pays asiatiques, au premier rang desquels la Chine.
Alors Olivier Sueur, c'est intéressant parce que évidemment ça pose question aussi cette réponse iranienne à la veille de cette ouverture du sommet de l'OTAN qu'on annonce crucial où Donald Trump est attendu, le président américain. Alors est-ce que on peut attendre à ce que le président américain se rende à ce sommet, ou est-ce que d'une certaine manière la réponse iranienne va lui servir de prétexte pour ne pas s'y rendre?
C'est une des possibilités. Hein. Le fait est, si vous voulez, ce sommet de l'OTAN a un niveau d'ambition très faible et un niveau d'aléa très élevé. L'aléa majeur, évidemment, étant Donald Trump lui-même. Donc, la première chose qu'il pourrait faire, effectivement, c'est simplement de ne pas s'y rendre. Ce qui serait, en tant que tel, déjà un premier niveau de catastrophe pour l'ensemble, évidemment, des alliés qui l'attendent sur place. Sachant néanmoins que, si vous voulez, le contenu du sommet en tant que tel est déjà excessivement limité. Mais évidemment, ce serait le coup de massue ultime de la part de Donald Trump sur l'OTAN. Ça me paraît quand même peu probable, ouais. Même si on a vu avec le G7 qu'il pouvait partir en cours de route. Ça, c'est sans doute peut-être plus l'option à retenir. Il pourrait venir en retard et partir en avance. Ça ne se fait guère, mais ce serait symboliquement presque aussi grave que son absence.
Ce serait fidèle à ses habitudes, dirait-on. Est-ce que, quand on revient justement sur ces frappes américaines, le week-end dernier en Iran, est-ce que ça illustre justement la défense selon Donald Trump, c'est-à-dire sans consultation des États membres de l'OTAN?
Sans consultation, oui, mais d'un autre côté, j'allais dire, enfin, comme d'habitude, si vous voulez, l'administration Biden s'est retirée d'Afghanistan sans consultation des alliés de l'OTAN. Donc, en toute sincérité...
C'est pas Donald Trump lui-même, c'est les États-Unis davantage.
Ce serait quand même assez malvenu de reprocher une action unilatérale à Donald Trump alors que l'administration Biden a fait tout aussi pire ou, ou bien dans l'absence de consultation des alliés. Donc, si vous voulez, là-dessus, je ne considère pas que ce soit un biais particulier.
Maud Kessar.
Oui. Et puis, il faut rappeler que dans la grammaire trumpienne et dans sa logique, finalement, quand il a frappé Soleimani la dernière fois, et d'ailleurs, il s'est appuyé aussi pour justifier un petit peu ses frappes sur cette histoire récente. Il n'avait pas particulièrement consulté les alliés, puisque lui a rappelé, Trump, dans son grand récit, que régulièrement, les Iraniens avaient pu frapper des positions américaines et que cela justifiait aussi représailles contre l'Iran.
Jean-Pierre Molnier, on va essayer de prendre de la hauteur, justement, puisqu'on pose la question ce soir, est-ce que l'OTAN peut survivre à Donald Trump? Que sait-on des intentions du président américain à l'égard de l'OTAN et en quoi est-ce qu'elles diffèrent? Parce que c'est intéressant, Olivier Sueur nous disait que finalement, sur le fait de ne pas consulter les alliés, il n'y a pas de grande différence avec son prédécesseur Joe Biden. Mais alors, qu'est-ce qui fait la différence entre Donald Trump et Joe Biden aujourd'hui sur ces questions-là?
La première différence, c'est quand même qu'il y a des incertitudes qui sont très grandes avec Donald Trump, avec des positions qui peuvent évoluer. Bon, une chose est sûre, c'est que c'est vrai qu'il y a un désintérêt des Américains vis-à-vis de l'Europe, et ça s'est vu à partir du mandat de Barack Obama. La vraie question, enfin la chose qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il n'a véritablement, il n'écoute absolument pas les Européens, et ça ne l'intéresse pas. Bon, par rapport à l'OTAN, je dirais que la question par rapport à l'OTAN, c'est plus une question entre Européens maintenant. C'est-à-dire, on a un outil, on a 32 États membres, je ne pense pas que les Américains se retirent de l'OTAN. Donc, qu'est-ce qu'on fait de cet outil? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Je pense que c'est aux Européens, finalement, qu'appartient la réponse, s'il y a une réponse, et finalement, pas tellement aux Américains. Il y aura quand même une question de savoir, est-ce que les Américains sont prêts je dirais à lâcher la main un petit peu sur le contrôle de l'OTAN. Il y a quand même une question à ce niveau-là.
D'accord, parce qu'en gros, aujourd'hui, 70% des capacités de l'OTAN sont les Américains. Vous pensez qu'il n'y aura pas davantage de désengagement américain que les États-Unis, vous dites, ça c'est une question aussi qui vaudra un tour de table. Vous, en tout cas, vous nous dites que les Américains ne se retireront pas de l'OTAN. Mais est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'ils se désengagent petit à petit sous le mandat de Donald Trump, de l'Alliance?
70%, c'est pas la participation des États-Unis à l'OTAN, hein, c'est la masse des dépenses militaires globales des États-Unis par rapport aux Européens.
Oui, parce que c'est les dépenses, c'est quand même l'air de la guerre, on va évidemment les évoquer.
Non, pas par rapport à l'OTAN. Il y a une bonne partie des dépenses américaines qui sont liées déjà à la zone Pacifique. Or, la zone OTAN, c'est la zone euro-atlantique. Non, les capacités militaires des Américains ne peuvent pas dépasser 50% de ce que les Européens fournissent pour la défense de l'Europe. Donc, la vraie question aujourd'hui, c'est effectivement qu'est-ce que les Européens sont prêts à vouloir faire pour défendre plus et mieux l'Europe. Bon, après, il y a des dialogues qui sont quand même relativement rationnels entre l'administration américaine et les administrations européennes. Reste que cette rationalité, elle peut être du jour au lendemain mise à bas par les décisions de Donald Trump, ça c'est sûr.
Olivier Sueur, les dépenses de l'OTAN, c'est pas le nerf de la guerre, parce que pourtant c'est quand même la raison des tensions entre États-Unis et États membres. On va évoquer ce fameux 5%. Les États-Unis somment les États membres de dépenser non plus 2% comme c'était le cas il y a quelques mois. On progresse, on est à autour de 3% pour beaucoup d'États membres, mais d'aller jusqu'à 5%. On en parlera. C'est pas le nerf de la guerre, la question de la dépense. C'est pas l'enjeu de la survie de l'OTAN aujourd'hui.
Alors, la question du niveau de dépense est le seul sujet du prochain sommet. C'est le seul et unique sujet.
Mais parce que c'est pas le sujet le plus important de l'OTAN aujourd'hui.
Tout à fait. En fait, le sujet le plus important de l'OTAN aujourd'hui, c'est son existence. Mmh. Hein, il faut quand même le dire. Donc, avant la question de son financement, enfin, vous voyez...
Les deux sont sûrement liés.
Non.
D'accord.
Vous pouvez avoir, j'allais dire, les États-Unis qui vident, finalement, de leur sens, la garantie de sécurité américaine vis-à-vis des pays de l'OTAN. Et ça, c'est au fondement même de l'Alliance. Avant de discuter, si vous voulez, le bout de gras et qui va devoir manger, qui va devoir dépenser plus ou dépenser moins, avant tout, c'est est-ce qu'il y a une crédibilité américaine dans son engagement vis-à-vis de l'article 5 de défense collective de l'ensemble des États membres.
Ça, on rappelle, c'est quand un État membre est attaqué, les autres doivent répliquer.
Disons qu'une attaque contre un État membre est considérée comme une attaque contre l'Alliance.
Et Donald Trump a récemment remis en cause cela.
Déjà pendant sa première présidence. Mais là, si vous voulez, on avait encore quelques doutes pendant la première présidence, grâce à son administration qui disait exactement le contraire. On a eu le retour de cette confiance avec Joe Biden et son administration. Là, désormais, il est clair qu'il n'y a plus de crédibilité à la garantie de sécurité américaine vis-à-vis des pays. Et tous les pays européens le savent, et c'est le cœur du sujet aujourd'hui.
C'est une question quand même de crédibilité réciproque, parce qu'on a bien compris que d'un côté, on a l'administration Trump qui attend des Européens qui mettent plus au pot. En fait, c'est l'histoire des 5%, et question sur laquelle tous les États membres ne sont pas prêts, ne sont pas d'accord, puisque certains pays ont même parlé de quitter l'Alliance parce que ça leur parle, cette cotisation, dont il dit, je pense à la Slovaquie,
exactement, la semaine dernière,
donc, disait que c'était trop pour participer à ce club-là, mais on comprend que ce discours-là, il est aussi alimenté par certains discours pro-russes. Donc, et puis, il y a la crédibilité ensuite des Européens vis-à-vis de ce fameux pilier européen de l'OTAN, parce que dans les discussions avec les Américains, si les Européens doivent prendre davantage en main leur propre sécurité, c'est ce que l'administration Trump et ce que les Américains attendent des Européens. Pour autant, ils attendent aussi des Européens qu'ils se montrent crédibles sur leur capacité à prendre en main leur propre sécurité. Ce n'est pas qu'une question budgétaire ou financière, c'est aussi montrer comment ils vont pouvoir organiser cette prise en main de leur propre sécurité et leur capacité à offrir donc eux-mêmes des garanties de sécurité à leurs partenaires. Et pour l'instant, ceux qui sont crédibles, les pays partenaires, ce sont donc la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, puisqu'aujourd'hui, la Pologne, qu'on avait vue comme quatrième pays pouvant participer à ce pilier européen, a une relation peut-être plus bilatérale que de participation à cette européanisation de l'OTAN.
Bilatéral, c'est-à-dire
bilatéral avec les États-Unis.
Avec les États-Unis, parce que c'est vrai que c'est un pourvoyeur important de l'OTAN.
Absolument. C'est le très bon élève.
De défense, sont très importantes côté Pologne. Mais effectivement, est-ce qu'on peut imaginer des exceptions? Est-ce que l'OTAN peut fonctionner avec des exceptions, entre guillemets? Vous évoquiez la Slovaquie qui menace de quitter l'Alliance s'il faut passer à 5% du PIB en termes de dépenses de défense. Alors, il y a eu même un imbroglio un peu concernant l'Espagne, parce que l'Espagne a dit qu'elle avait conclu un accord avec l'OTAN pour justement pas parvenir à ce seuil des 5%. Aujourd'hui, Mark Rutte, qui est le secrétaire général de l'Alliance, a dit non, l'Espagne ne sera pas exemptée, parce que pour lui, c'est effectivement quelque chose de très important.
En fait, c'est pire, parce que Maud a fait un exposé rationnel. Or, nous ne sommes plus dans la rationalité, malheureusement.
Nous sommes dans l'ère de Donald Trump.
Tout à fait, nous sommes dans l'ère de Donald Trump. Et le problème, de mon point de vue, c'est justement que l'OTAN est en train de s'adapter à cette post-vérité. Mmh. C'est-à-dire, ces 5%, en réalité, ne seront jamais atteints par personne. Il faut l'avoir bien en tête. Tout ça est une vaste créativité comptable. En gros, Donald Trump veut 5%, on lui donne 5%, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est pour ça, le Premier ministre...
Ils seront atteints ou ils ne seront pas atteints?
Non, jamais.
Mais alors pourquoi vous dites qu'il donne... le président américain demande 5%.
On lui donne.
Ça veut dire
qu'on fait un communiqué, un bout de papier sur lequel on écrit oui, ce sera 5%, on s'y engage et on signe en bas.
Mais ça ne sera pas réalisé.
Mais quand Marc Rutte dit ça aujourd'hui,
l'OTAN va faire un bond en avant avec les 5%, ça ne sera pas le cas.
Non.
Okay.
Non, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est ce que disait en gros Pedro Sanchez, donc le Premier ministre espagnol, en disant. Soyons francs, jamais. Donc, sur ces 5%, vous avez 3,5% sur la partie pure défense et 1,5% sur des questions cyber, infrastructure, sécurité. Donc, moi, j'ai été conseiller diplomatique auprès de l'OTAN, et puis sous directeur, si vous voulez, c'était récurrent. Il y a toujours eu des tentatives pour truquer les comptes. À un moment, on voulait mettre, par exemple, certains pays voulaient mettre l'aide au développement. Puisque quand vous faites de l'aide au développement, ça participe de la défense en évitant un conflit. Vous voyez, c'était le raisonnement des Allemands quand ils essayaient de se justifier. Et donc, il y a toujours eu ce type de tentative. Là, le problème, c'est que le principal actionnaire, donc les États-Unis, disent « Allez-y, finalement, truquez les chiffres pour faire plaisir à notre président. Ouais. » Donc, on va vers 1,5%. Tout le monde va les atteindre là, sur cyber-infrastructure parce que c'est relativement facile à faire. Ça va gonfler artificiellement les chiffres et ça permettra d'expliquer que les 3,5%, bon, bah, les atteindra pas parce que c'est très difficile. D'ailleurs, ce sera marqué que c'est pour 2035, plutôt à ce moment-là.
2032 ?
Non, ça, c'était la dernière négociation. Normalement, selon mes informations, ce sera 2035.
Ça va changer ce week-end. C'est les deux prochains jours.
Enfin, 2035. Non, ça a été acté dans la nuit. Mais si vous voulez,
bon, de toute façon,
plutôt à ce moment-là.
On est après le mandat de Donald Trump. L'idée, c'est quoi? C'est de tirer à la fin du mandat de Donald Trump pour dire, voilà, regardez, président américain, l'OTAN assume ses engagements et dans les faits, il les assumera
non,
pas.
Non, mais en fait, votre raisonnement implique du long terme. Plus personne ne raisonne comme ça.
Mais s'il y a cette date de 2035 qui est annoncée, c'est du long terme.
Oui, mais rassurez-vous, cette date de 2035, on l'abandonnera. Une fois que la présidence de Trump sera finie ou si, lors des élections de mid-term, il y a des modifications.
Jean-Pierre Molny, je sais que vous souhaitiez réagir. qu'en pensez-vous cet exposé d'Olivier Sueur, en fait, qui nous dit, bon, déjà, est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que, selon vous, les 5% des dépenses des États membres en termes de défense ne seront jamais atteints? Et dès lors, si vous êtes d'accord avec ça, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que ça augure pour l'avenir de l'Alliance? Parce que c'est la question de notre débat ce soir.
Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'on dit Maud Kessar sur le fait que les Américains et avant même Donald Trump demandent aux Européens de prendre en charge la sécurité de l'Europe et d'être enfin responsables, ce qui au fond est une bonne chose. Et effectivement, les 5% ne seront jamais atteints. Mais là, tout le monde fait de la communication. La communication pour Trump, c'est de dire, voyez, j'ai obtenu satisfaction, les Européens feront 5%. Quand le Premier ministre espagnol dit, je n'atteindrai pas et tout, il fait de la communication par rapport à, en termes de politique intérieure, et pas par rapport à l'OTAN, parce qu'il sait qu'il a quand même des électeurs, et que si jamais il est en accord avec les 5%, ses électeurs vont voter contre lui. Quant à Marc Rutte, il est là pour donner satisfaction en apparence à Donald Trump, pour dire regardez, j'ai fait tout pour que les Européens vous donnent satisfaction. Et la date de 2035, effectivement, c'est ce qu'ont demandé les Allemands, c'est ce qu'avait demandé Merz. Maintenant, 2035, d'une part, effectivement, Trump sera plus au pouvoir. Et puis, le contexte stratégique peut changer.
Bien sûr.
Tout simplement. Donc, à ce moment-là, on sera peut-être à 2,4, 2,5. On aura progressé, parce que de toute façon, il y a un besoin quand même d'accroître les dépenses de défense. Mais on n'atteindra jamais 3,5%. Et les Français, les premiers d'ailleurs, sont en difficulté par rapport à ces objectifs, du fait de nos difficultés budgétaires.
Donc vous nous dites que la politique a pris le dessus sur les enjeux de défense, mais qu'est-ce que ça dit de l'OTAN aujourd'hui? Après, je vous donne la parole.
Mais après l'OTAN, après, vous avez quand même de la planification de défense, vous avez une planification stratégique qui est sans doute surévaluée d'ailleurs par rapport à ce qui est nécessaire. Vous avez une organisation et cette organisation, elle est nécessaire. Encore une fois, vous avez un outil derrière. Et cet outil, normalement, il continue à fonctionner. Après, vous avez des déclarations politiques. Mais ce n'est pas parce que les déclarations politiques sont faites pour faire de la communication que l'outil derrière ne fonctionne pas.
RFI, le débat du jour.
L'OTAN peut-elle survivre à Donald Trump? La question qu'on pose ce soir dans le débat du jour, alors que l'actualité s'accélère ce soir avec la réponse iranienne aux frappes américaines dans le cadre de la guerre entre Israël et Téhéran, qui évidemment renforce aussi cet enjeu de défense. Mes trois invités sont Jean-Pierre Molnik, l'on entendait, qui est directeur adjoint de l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, responsable des études liées aux questions de défense, Olivier Sueur, chercheur associé auprès de l'Institut d'études de géopolitique appliquée, ancien sous-directeur OTAN, Union européenne et ONU au ministère des Armées, et Maud Kessar, maître de conférences des universités, directrice du domaine euro-atlantique à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. Si, comme finalement Olivier Sueur et Jean-Pierre Molny l'ont dit, et si vous vous alignez sur ces positions, à savoir que finalement l'enjeu annoncé de ce sommet à venir demain et après-demain de l'OTAN à La Haye aux Pays-Bas ne sera pas, enfin, entre guillemets, suivi des faits, à savoir que les États membres consacrent 5% de leur PIB à la défense. Ça veut dire que finalement, on va être sur un statu quo dans les années qui viennent concernant l'OTAN. Il faut s'attendre à ça?
Alors, il faut s'attendre surtout à ce qui est quand même à l'agenda de ce sommet et ce qui, au-delà des questions budgétaires, est existentiel pour les Européens et ce qui est l'essence même aussi de l'Alliance, et à savoir la question du devenir à court terme de l'Ukraine, parce qu'en fait, ce qui est central dans ce qu'on attend, au-delà des promesses que l'on ferait au prince Trump pour satisfaire finalement ses ambitions et aussi ses promesses de campagne à lui, et pour qu'il puisse dire bon, voilà, les Européens ont plié, la question c'est quand même de savoir comment les Américains vont continuer à soutenir l'effort en Ukraine? Que vont-ils faire des 100 000 hommes et des troupes qui sont présents sur le territoire européen? Et ce qui est en train de se passer en Iran est particulièrement intéressant parce que, d'une part, ça ouvre un autre front et ça pourrait nous faire penser que l'administration Trump voudrait accélérer finalement ou se désintéresser un petit peu plus des négociations en cours sur l'Ukraine. Et puis, de l'autre aussi, ça peut faire craindre que les Américains plus engagés au PMO avec un autre front et la nécessité en même
proche
temps...
Proche et Moyen-Orient, j'ai traduit.
Proche et Moyen-Orient, avec un objectif qui est celui d'être plus présent en Indo-Pacifique qu'en Europe, se disent qu'ils ne puissent plus être présents partout. Donc c'est quand même un signal fort aujourd'hui, ouais, qui est envoyé aux, oui, Européens qui sont marginalisés par les États-Unis, à la fois avec le conflit en Ukraine et au sein de l'OTAN, sur le conflit au Moyen-Orient. Donc c'est un moment quand même, même si on ne peut pas avoir de grandes attentes sur ce sommet-là, c'est un moment où il va y avoir des négociations et des discussions en marge du sommet qui peuvent être extrêmement importantes dans le moment là de ce nexus proche Moyen-Orient et Ukraine que nous vivons.
Et c'est pour cette raison, comme disait Jean-Pierre Molny, finalement, de certaine manière, que la balle, et on va l'évoquer, est dans le camp de l'Union européenne, puisque finalement, la raison de l'OTAN, c'est la menace russe. Aujourd'hui, le désengagement des États-Unis dans le conflit ukrainien relativise cette menace russe et donc pose la question de l'avenir de l'OTAN, ou en tout cas l'intérêt des États-Unis pour l'OTAN.
Oui, mais clairement, ce qu'on voit bien, c'est que si pour les Européens qui sont engagés et qui veulent s'engager dans l'européanisation de l'OTAN, et donc se protéger contre la Russie, qui est une menace prioritaire, en revanche, pour les Américains et l'administration Trump actuellement, qui n'a pas encore sorti de document stratégique, si ce n'est le fameux rapport sur le renseignement qui a été de l'ODNI, ce qui a été traduit en français comme le rapport présenté de la CIA, dans les menace prioritaire, la Russie n'apparaît pas comme une menace prioritaire. C'est la Chine et les acteurs non étatiques, donc les acteurs qualifiés de terroristes, qui sont d'ailleurs pour les États-Unis plutôt situés au sud du continent, des continents américains, que dans d'autres régions du monde, puisque c'est les narcotrafiquants qui préoccupent d'abord. Donc les préoccupations de l'administration Trump en termes d'enjeux de défense et de sécurité ne sont pas les mêmes que celles des Européens.
Je pense que tout est résumé dans cette phrase. Olivier Sieur, on va tenter de tracer les perspectives dès lors, parce qu'effectivement, tout est dit dans cette phrase. L'ennemi désigné par les États-Unis, c'est la Chine et non pas la Russie. Ça pose la question, évidemment, de l'intérêt aujourd'hui des États-Unis et demain pour l'OTAN. La question n'est pas du tout la même pour les Européens. Il y a 100 000 personnes, effectivement, 100 000 soldats qui se trouvent, 100 000 soldats américains qui se trouvent dans l'Union européenne. Quel avenir pour eux?
Et pour très longtemps.
Voilà. Donc, est-ce que peut faire l'Europe maintenant? On va parler de l'Europe de la défense. Il y avait ces 800 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Ça, c'est le plan réarmer l'Europe de la Commission européenne. C'est une bonne base, mais à un moment, ça fait des années qu'on parle de l'Europe de la défense.
Oui. Alors, juste peut-être pour rebondir déjà sur les forces américaines stationnées en Europe, c'est aussi en quelque sorte l'épée de Damoclès sur le sommet, parce que tout le monde attend les résultats des travaux internes de l'administration américaine pour savoir combien vont en être tirés. Alors, est-ce que c'est 10 000, 20 000, 30 000, plus voilà, avec des conséquences stratégiques, évidemment, qui ont été décrites vis-à-vis de la Russie. De la même manière, cela dit en passant, hein, l'Ukraine est le grand sacrifié du sommet qui va avoir lieu demain et après-demain, et les États-Unis n'ont pas souhaité finalement avoir de stratégie sur la Russie, alors que ça avait été programmé lors du sommet de Washington de l'an dernier et qu'on devait obtenir un résultat, et donc on n'aura rien. Donc voilà, le contexte est déjà pas très bon là-dessus. Ensuite, sur l'Europe de la défense, là, j'ai envie de dire, ça avance. Ouais. Ça avance lentement, mais ça avance de plus en plus vite, notamment dans la capacité, et là, en ce moment, c'est quand même assez notable, la capacité qu'ont les Européens aujourd'hui à remplacer les Américains en Ukraine. On le voit sur, quand même, la production de munitions, sur travailler sur des alternatives en termes satellitaires, par exemple, vis-à-vis des Ukrainiens. On voit que c'est beaucoup de choses qui sont en train de progresser. Ensuite, il y a la question de l'argent qui est mis sur la table, effectivement. Alors attention, hein, parce que sur les 800 milliards, il y en a 650 qui n'existeront pas. Vous voyez, une certaine obsession sur la disparition des grandes sommes, mais qui sont liées, évidemment, à la dimension politique de ces annonces. Le seul vrai point intéressant, c'est les 150 milliards du fameux outil SAFE, donc un nouvel instrument, finalement, mis en place par l'Union européenne pour financer l'achat de capacités de défense de manière directe.
Mais donc l'idée, c'est que l'Union européenne ne mette pas tous ses œufs dans le même panier, entre guillemets, poursuive son engagement auprès de l'OTAN et développe, parallèlement à ça, une Europe de la défense.
Il n'y a pas d'engagement de l'Union européenne auprès de l'OTAN.
Des Européens.
Voilà, les Européens, j'allais dire, ils sont dans l'OTAN et notamment sur la partie planification, si vous voulez, ça ne se fait que dans l'OTAN. Il n'y a quasiment pas de planification du côté de l'Union européenne. Donc la coordination de la planification, évidemment, se fait dans l'OTAN. En revanche, toute la dimension capacitaire, c'est-à-dire le développement des armes, des équipements, des systèmes d'information qui vont avec, ça, clairement, ça n'a jamais été l'OTAN. Et c'est du côté de l'Union européenne qu'on peut arriver à européaniser cette dimension. Et c'est un enjeu clé, si vous voulez.
Et est-ce qu'on peut oser le mot complémentarité entre les deux ?
On peut l'oser. Non, mais on peut l'oser. Il y a de plus en plus de complémentarité entre les deux. C'est très clair.
J'ai Pierre Quadio qui arrive pour nous parler d'Afrique Soir. C'est déjà la fin de ce débat. En tout cas, c'est intéressant. On peut répondre en disant que oui, l'OTAN peut survivre à Donald Trump, mais que l'Union européenne doit prendre son avenir entre ses mains. Et cet avenir est en train de se dessiner avec l'Europe de la défense. Merci beaucoup à vous trois. Olivier Sieur, Maud Kessar et Jean-Pierre Molny. Merci beaucoup. C'est la fin de ce débat du jour. Et dans un peu plus d'une minute, ce sera le grand journal du soir. Et dans 30 minutes, ce sera donc Afrique Soir, la première édition. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à tous.
Allez, on jette rapidement un coup d'œil au programme. programme qui nous attend dans un peu plus d'une demi-heure avec à la une la visite du chef de la junte malienne en Russie.
Oui, arrivé dimanche à Moscou, le général Assimi Goïta a été reçu ce lundi par le président Vladimir Poutine. Au menu de leurs échanges, la défense, les transports et l'économie. Le déplacement du dirigeant malien intervient dans un contexte de recrudescence des attaques djihadistes au Mali. Nous reviendrons aussi sur l'attaque meurtrière perpétrée dans la nuit de samedi à dimanche dans le sud-ouest du Niger. Bilan, plusieurs dizaines de morts et une vingtaine de blessés.
Et puis du changement à la tête du CIO.
Oui, Christy Coventry succède à Thomas Bach. La Zimbabwéenne est aussi la première africaine à prendre la direction du comité international olympique.
Eh bien, merci Zéphirin Kouadio. Allez, on vous retrouve dans 30 minutes.